Allez, 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 allez. On y va.
Ne me bougez pas, hein, vous ne me bougez pas. Alors, on y va. Sel, sel. Dépêchons-nous, parce qu'après, ça sera trop tard. Ça se meurt, là. Non, pas là, pas là. C'est curieux, quand même.
J'accepte les régimes, mais pas les manies.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Corneille?
J'adore les sujets.
Les gens ne savent pas ce qui est bon. Les gens ont un trou dans le ventre et ils remplissent ce trou de merde.
Il n'y a rien à faire, c'est comme ça.
Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais.
Oh, du dessert, c'est une bûche?
Non, c'est Cloug.
Bonsoir à tous et toutes, c'est De Bouche à Oreille en direct sur Studio Zef. Une émission dédiée à la popote, la boostifaille, la mangeaille, la ripaille, bref, tout ce qui fait vibrer n'importe quel humain qui se respecte, et particulièrement le français, j'ai nommé la gastronomie. Et nous voici au mois de février, le mois des crêpes, des beignets, des gaufres, des tartiflettes, des raclettes et des fondues, bref, le mois de la légèreté. Histoire de justifier les couves des magazines qui sortiront dès les premiers jours du printemps pour nous expliquer qu'il nous reste 3 mois pour préparer l'été et être belles et beaux en maillot. Amis auditeurs, d'ici ce dictat, mes camarades attablés et moi n'avons qu'un conseil à vous donner, profitez. Alors que nous sommes réunis pour notre rendez-vous mensuel, nous ne vous parlerons ni crêpes, ni raclette et encore moins plat spécial Saint-Valentin. Non, chers auditeurs, nous avons décidé de nous intéresser à la pêche en Loire ce soir. Parce que oui, figurez-vous qu'il n'est pas que le saumon d'élevage, le perche du Nil et le thon surpêché dans la vie du gastronome amateur de poissons. Qui plus est, lorsqu'il vit à proximité d'un des plus grands fleuves de France. Et oui, messieurs, dames, la Loire regorge de pépites que quelques pêcheurs s'efforcent de remettre au goût du jour. Et c'est l'un d'entre eux, Thierry Bouvet, pêcheur de Loire à Mont-Louis, qui nous en parlera tout au long de cette émission. Bonsoir Thierry, et merci d'être venu jusqu'à nous.
Bonsoir. Bonsoir.
Et on a également Paul, pêcheur à la ligne, surnommé Tom Sawyer de Chaumont-sur-Loire, qui accompagne Thierry ce soir et qui nous parlera pêche, écosystème, enfin voilà, qui nous fera découvrir la Loire. Bonsoir Paul.
Bonsoir, bonsoir.
Fidèle au poste pour m'accompagner durant ces 60 minutes dédiées à la popote, mes chers camarades attablés, Yann, notre râleur préféré, qui poussera tout à l'heure son coup de gueule contre les crêpes industrielles.
Mais bon, pas se gêner. Bonsoir Alice.
Salut Yann. Marie, notre éditrice spécialiste S20 qui nous parlera taille de la vigne. Salut Marie.
Bonsoir Alice.
Et d'ores et déjà, ayons une petite pensée pour tous ces saisonniers ou non qui arpentent des kilomètres de vignes sécateurs en main toute la journée, le dos courbé. Véro, notre gastronome cinéphile qui nous racontera les souvenirs culinaires d'une certaine Fanny Goumard en fin d'émission. Salut Véro.
Salut à tous.
Enfin, Jérémy, à la technique et à la programmation musicale. Mais avant de démarrer la discussion, chers camarades attablés, qu'avez-vous apporté comme bon plan dans votre panier? Qui est-ce qui commence?
C'est, bah, je sais pas. Non,
allez,
c'est moi,
allez Yann.
Là, je me lance, c'est parti.
Honneur à l'enrhumé, vas-y.
Ouais, ouais. Pas au grippé, celui qui a une bronchite, on l'appelle comment? Le mourant.
Au poitrinaire.
Au mourant. toi, t'es bien un mec malade. Ouais, c'est ça. Bah, dans deux jours, t'es mort.
Ouais, c'est normal. Parti. Bon, alors voilà. Le coup de cœur, ouais, pour moi, c'est encore une émission de télé que j'ai chopée sur l'internet, que j'ai pas vu à la télé en direct. Ça s'appelle Molo sur le cabillaud. Ça passait le 22 janvier sur France 5. Vous pouvez le revoir. Alors, pas en replay sur le site de France Télévisions parce qu'il est indisponible maintenant. En revanche, sur YouTube, il est disponible. Et ça raconte un peu la pêche du cabillaud en partie aussi de la Norvège, là où il est pêché en abondance, on peut dire, jusqu'à son arrivée dans nos assiettes. Et il passe un petit peu de temps en temps par la Chine où il est rempli d'eau et de phosphate pour retenir l'eau à l'intérieur pour gonfler les filets. Enfin bon, ça, il ne parle pas que de ça, mais c'est très informatif.
Édifiant.
Oui. Donc voilà, je recommande. Du Molo sur le cabillaud, ça s'appelle.
D'accord.
Sur YouTube.
Et c'était sur France.
C'était sur France 5.
Si on ne le trouve pas,
ouais,
d'accord.
C'est passé le 22 janvier dernier.
Ok. Merci Yann. Marie?
Alors moi, mon coup de cœur, c'est la cave Amicalement Vin à Possé-sur-Cisse. Aux portes d'Amboise, il y a une très belle sélection de vins du coin, d'Amboise, de Vouvray, de Mont-Louis, du Loir-et-Cher bien sûr, et de toute la France. Il y a aussi des bières, d'ailleurs celle de Yann. Les cavistes connaissent très bien les vins, et leur vin, et conseillent très bien. L'adresse, vous la trouvez sur le site internet www.amicalementvin.com. Il y a les horaires, c'est ouvert tous les jours sauf le dimanche et lundi.
Et on mettra les coordonnées sur la page de
Debouche.
HTTP, tu sais qu'il y a un S maintenant, HTTPS, /. Non, maintenant c'est les sites sécurisés. On fera une émission sur l'internet un autre jour. Juste des vins nature ou pas que?
Surtout.
Oh oui, ça alors.
Pas que, je crois, pas que, mais il y en a.
Ok.
Beaucoup.
Donc, amicalement 20 à Possé sur 6.
Oui.
Ok, merci. Véro, ton coup de cœur?
Alors, mon coup de cœur, c'est pas la peine d'aller sur Internet. Vous allez dans une bonne librairie ou une bonne bibliothèque. C'est la cuisine libanaise d'hier et d'aujourd'hui, écrit par André E. Malouf. Oui, il y a une parenté, c'est la tata d'Ibrahim Malouf. Non, c'est pas la grand-mère. Et Karim Haïdar, qui est un chef cuistot renommé aujourd'hui, qui a des restaurants, qui sévit un petit peu partout. Et c'est absolument sublime. D'abord, il y a des très belles photos qui donnent envie de tout manger. Et la cuisine libanaise, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je ne me lasse pas de faire des éloges sur la cuisine orientale, que je considère comme la meilleure au monde. En toute objectivité, hein, bien sûr. Et donc, voilà. Voilà, donc ça s'appelle Cuisine libanaise d'hier et d'aujourd'hui. C'est chez Albin Michel, de André Malouf et Karim Haïdar.
Et je cautionne parce que tu me l'as prêté pour un fameux banquet et c'était génial. Thierry, tu nous as amené un bon plan, je crois, dans ton panier aussi?
Alors, je pense à mes deux collègues qui pêchent sur le département et qui proposent et du frais, mais je ne sais pas où, mais par contre des produits transformés, c'est Sylvain Arnoux et Julien Quesneau. Et qui font qui relancent la pêche professionnelle, enfin qui en permettent la permanence, et puis qui se lancent dans la transformation de produits. Et, pour permettre que, de nouveau, on puisse s'en procurer facilement.
D'accord. Julien Quesneau, je fais une erreur ou c'est la bourriche aux appétits?
C'est ça. Donc, il a une grande notoriété. Quant à Sylvain, ma foi, il fournit des étoilés. Donc,
il s'est installé plus récemment. Je crois qu'on trouve ses produits chez Denis et Jean-Jacques à Blois, à la Cafetée, il me semble.
Mais je ne te contredirai pas, mais je ne pourrais pas confirmer.
Oui. D'accord. On mettra leurs coordonnées aussi sur le site. Moi, mon bon plan, c'est le kiwi. Parce qu'en fait, je ne m'en lasse pas, moi, de ce petit fruit vert velu, là, qui constitue une part de mon petit déjeuner quotidien. Et en fait, j'ai été assez surprise de découvrir que le kiwi n'est apparu sur les marchés français que dans les années 80. Ce qui, certes, remonte au siècle dernier, mais reste assez récent au regard de notre histoire gastronomique, me semble-t-il.
Mais c'est vrai en plus.
Et donc, jusque dans les années 70, il était connu sous le nom de groseille de Chine par rapport à la saveur acidulée de sa pulpe. Bon, alors, histoire de faire mes conseils pharmaco, il y a plein d'atouts, vitamine C, plus que dans une orange, vitamine A, vitamine B9, potassium, etc. On le mange à la cuillère ou pelé, en version sucrée ou salée, en salade, en plat cuit. Ouais, je l'ai tenté récemment en galette des rois. Je sais pas si je recommencerai, mais bon, faut essayer.
T'avais pas mis assez de beurre.
Sans commentaire. Il y en a pas besoin avec le kiwi. Bref, au cœur de l'hiver, pour éviter rhume, grippe et parfois pire, mon deuxième conseil du jour tient donc en trois mots : manger des kiwis. Bref, merci à vous, camarades attablés, pour tous ces bons plans que on vous indiquera sur la page de De Bouche à Oreille sur Studio Zef. Une petite virgule et puis on parle pêche en Loire.
J'ai mal.
On va peut-être passer à la suite, Michel.
J'ai mal.
Eh bien, 6h32, c'est l'heure de la météo.
J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal.
Pardon, je m'y fais pas aux virgules, du coup, pouf, petit blanc, j'arrive pas à enchaîner. Merci Jérémy. Donc Thierry, merci de venir nous parler de pêche en Loire. Donc on s'est connus dans une autre vie où tu étais plutôt dans le social, éduc, voilà, me souviens-je. Et tu avais ce projet de pêche en Loire et je suis donc super heureuse de voir que ça a fonctionné. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de Garoum de Loire, qui est, de Garoum de Tours, pardon, qui est ta petite entreprise ?
Oui, bah, qui deviendra coopérative, de défaut de devenir grande. Voilà, mais j'ai découvert la Loire assez tard. Je m'en suis éloigné, j'ai eu le souci d'y revenir, d'y travailler. Et puis tout d'abord de raconter un peu des histoires de ce qui se faisait sur elle, autour d'elle, etc. Et donc à partir de marinier, alors ceux de Millière, puis de Millière, la Rabouilleuse.
Raboton à Chaumont-sur-Loire.
Voilà, j'ai rencontré un pêcheur. Donc Philippe Boineau, qui est pêcheur du côté d'Amboise, entre Amboise et Chaumont. Voilà. Et puis je l'ai accompagné. Je l'ai accompagné, je me suis dit, je suis ni du nord de la Loire, ni du sud de la Loire, je suis sur la Loire. Voilà. Mais pour y être sur la Loire, il faut pouvoir en vivre. Donc les mariniers se débrouillent avec tout un tas de trucs dont Paul pourra peut-être parler. Et moi, je le voyais plus comme pêcheur, parce que de formation, je suis géographe. Je travaille sur les histoires de développement. J'ai commencé par la crevette en Tunisie. Et y a un rapport étroit qui est... Il y a de la ressource, la crevette en est une, mais le milieu, il a des ressources beaucoup plus larges. Par contre, quand on se polarise juste sur un truc, quelques-uns en vivent et tout le monde en pâtit. Et sur la Loire, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que... On a négligé la ressource poisson de la Loire pour en faire parfois juste un loisir, parfois juste un espace de transport, parfois juste un récipient à poubelle. Et c'est en fait beaucoup plus complexe. Donc moi, j'avais envie d'y être et de retrouver cette histoire de ressources alimentaires. Et
ça, on l'explique le fait que qu'on ait arrêté de pêcher, parce que moi je suis née le long de la Loire et je me souviens que mon grand-père pêchait l'anguille, alors pas professionnellement, mais je veux dire il pêchait l'anguille, la pêche à la civelle par chez nous c'était courant. Voilà, c'était forcément, ça a été une source nutritive, la Loire, alimentaire.
Oui. Alors moi j'ai des hypothèses par rapport à ça, des trucs que j'ai pu lire ou autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça devenait ringard d'aller se nourrir de ce qu'on a pêché familialement, voilà, et puis aller prendre des poissons qu'il fallait préparer. Alors en fait, c'était la mère il y a deux générations, donc la grand-mère maintenant qui savait le préparer. Donc avec tous les mouvements de population, il y a en fait au moins les trois quarts de la population qui riveraine de la Loire qui sait plus préparer le poisson. Et puis il y avait la mode d'aller en supermarché se nourrir autrement et voilà,
accéder à d'autres
voilà. Donc
d'autres ressources.
Il y a eu une rupture culturelle sur la consommation du poisson, ça paraît à peu près certain. Et puis les qualités d'eau n'étaient plus, il y a eu de vrais soucis.
Ouais.
Et d'ailleurs, ce qui peut expliquer qu'on a dit que il fallait plus aller se baigner dans la Loire parce que la Loire était dangereuse. Bon, enfin, elle était dangereuse pas pour les baigneurs, elle était dangereuse pour la santé. Donc il y a eu des efforts qui ont été faits qui ont payé. Et maintenant, au point que elle est tellement magnifique, qu'elle en est transparente. Mais
la qualité de l'eau s'est améliorée ?
Ah oui, ça s'est amélioré. Mais c'est pas parce que maintenant elle est transparente qu'elle est plus saine, ou en tout cas qu'elle est plus favorable au développement de l'écosystème. Parce que lorsqu'elle est transparente, c'est qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà. Donc, Paul peut-être pourra en parler, mais bon, toujours est-il qu'elle est là, qu'il y a des ressources, qu'on a une responsabilité collective de pas aller chercher le cabillaud et lui faire trois fois le tour du monde, de manger sain et sobre et peut-être plus juste là où on est.
Il y a une forme de relocalisation, ça va un petit peu avec l'agriculture aussi, quoi, relocaliser nos aliments.
Oui. Oui, et puis de pouvoir faire des choix, de manière aussi à aller de temps en temps aller chercher des choses qui sont extraordinaires plus loin. Hein, mais de faire en sorte que... Ben voilà, on peut avoir le bon produit au bon moment et c'est un prétexte à voyager pour aller en chercher d'autres plus loin.
Et alors vous êtes combien? Il en reste beaucoup de pêcheurs en Loire?
Alors des pêcheurs en Loire, il y en a beaucoup. Des pêcheurs professionnels, il y en a...
Oui, je veux dire, je parle de pêcheurs professionnels, bien entendu.
Ouais. Ben, sur l'Indre-et-Loire, on est 4.
D'accord.
Sur le Loir-et-Cher, ça doit être à peu près pareil. Il y a les deux que j'ai cités, mais il me semble qu'il y en a au moins un autre, voire deux autres. Bon.
Et des jeunes, hein, il me semble, parce que, alors Julien Quesneau, je ne sais pas, mais...
Sylvain, c'est la génération des 30-40 ans.
Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'appelle ça jeune.
Oui.
Ça jeune, c'est pour me rassurer, en fait.
Très jeune, très jeune.
Philippe Boineau était le dernier... Enfin, le premier des modernes, à s'installer en 1993.
D'accord.
Et il a permis à un autre jeune sur l'Indre-et-Loire de s'installer en 2003. Et ensuite, plus rien, jusqu'en 2014, où je me suis réinstallé sur Tours, en même temps que Romain Gadet sur Brémont.
Romain Gadet, c'est lui qui a ouvert le restaurant
Oui, c'est lui, c'est le jeune, il est beau, il est brillant, il est...
Je ne sais pas s'il est beau, mais il se trouve qu'il y a eu un papier sur lui dans Libération.
Je ne savais pas, il en fait un peu.
Ah d'accord, ok.
C'est-à-dire que... il a la compétence, il a l'envie, il a fait des choix, il les assume et effectivement on vient le voir. Parce que il fait de très belles choses.
Mmh.
Voilà. Donc c'est pas surprenant du
tout.
Mmh,
d'accord. Et on pêche quoi? Alors on pêche comment?
Comment? Ouais.
Voilà. On pêche comment en Loire? Merci Marie.
Pardon. Alors on pêche à pied, on pêche en bateau, on pêche.
En barque. Les bateaux c'est des barques.
Ouais. Ouais.
Enfin, c'est une question. Hein. Il y en a d'autres.
Oui, sans doute. Mais alors, je suis un tout jeune pêcheur. Je me suis installé en 2014. Et de culture, je viens un peu de partout. Donc, je n'ai pas ni les codes, ni les noms. Voilà. Donc, en fait, on pêche avec toutes les techniques. En fait, la Loire est sauvage et variable. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas un coup de pêche en Loire. Puisque à chaque crue, le fond est bouleversé,
remanié,
recomposé, etc. Ce qui fait que, voilà, il nous faut à chaque fois élire le fleuve et puis jouer de chance et d'expérience, etc. En tout cas, rien n'est jamais acquis.
Mm-hmm. Et alors, du coup, on bouge beaucoup, c'est-à-dire que toi, si tu es basé à Tours, tu remontes beaucoup ou chacun reste un peu sur son périmètre?
Alors, on est titulaire de baux de pêche, c'est-à-dire qu'on a un linéaire de Loire. Donc moi, je dispose du linéaire de Loire sur l'agglomération de Tours jusqu'à Amboise, à peu près. Mon collègue, c'est de Amboise à Chaumont et en fait, on est co-fermier. C'est-à-dire qu'on peut ensemble ou chacun travailler sur son territoire ou sur le territoire de l'autre. Ce qui nous permet d'avoir une exploitation raisonnée du territoire et puis de laisser en sommeil certains lieux. Puis aussi avoir des territoires qui vont nous permettre de pratiquer différents types de pêche.
Mm-hmm.
C'est par exemple la Seine, la pêche à la Seine de plage, on ne peut le pratiquer que sur trois endroits.
Qu'est-ce que c'est la Seine de plage?
De nuit quand l'eau est chaude, parce que pareil que c'est possible quand l'eau est froide, mais il y a moins de volontaires. L'un des pêcheurs reste sur la rive, sur la plage. L'autre va dans l'eau jusqu'à peu près au milieu du chenal en tirant un filet. Et l'un et l'autre descendent le long de la plage. Et un petit peu plus loin, celui qui est dans l'eau remonte. Et chacun à une extrémité du filet tire le filet de manière à ramasser, c'est essentiellement la friture.
Mmh.
Parce que les mulets, ils peuvent être pris dans le filet, ils s'agitent et ils sautent par-dessus le filet, ça donne des choses assez extraordinaires. Voilà, donc ça se pratique de nuit par temps chaud, parce que c'est aussi le moment
plutôt
où
l'été,
c'est...
Plutôt l'été du coup.
Voilà, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. L'un des terrain propice, c'est la plage d'Amboise. Donc on fait ça l'été. L'eau est à 25-26, il fait beau.
Super,
il y a
lumière, enfin lumière, même si c'est la nuit.
Il y a le son et lumière du château d'Amboise de soir. Voilà, c'est top.
Si on parlait vin, on va se faire une petite pause. On va se faire une petite pause à propos de lumière. Est-ce que la lumière est belle dans les vignes en ce moment? Je ne sais pas. Moi, je compatis. Je sais qu'il y a des gens qui aiment tailler la vigne. Et je pense très fort à une certaine Patricia.
Moi aussi. Moi aussi. Et je
sais qu'elle nous écoute. Et moi, je pense à elle tout l'hiver parce que je ne comprends pas. Mais alors.
En tout cas, elle a bien du courage.
Marie.
Elle fait très bien.
Si on parlait taille de vigne.
Avec plaisir. Oui, alors en ce moment, c'est la saison de la taille dans les vignes. Je me suis donc dit qu'il serait intéressant d'aller interroger un viticulteur sur ce qu'est la taille de tout ce qui est taillé. Je n'ai pas choisi des moindres, ou plutôt j'ai profité de l'occasion pour aller écouter quelqu'un de précieux, Didier Barouillé. Didier Barouillé est un vigneron de référence dans le coin, en France et à l'international, qui connaît le métier côté vin, côté vigne, côté chai et ses saisons. Il a géré pendant près de 35 ans le domaine du Clos Roche Blanche auprès de Catherine Roussel. Ils ont entretenu jusqu'à 32 hectares du côté de Pouillé. Ils sont maintenant tous deux retraités, mais continuent à être très actifs et à aider les plus jeunes. Je les remercie. donc on va écouter Didier sur la taille.
Historiquement, la taille de la vigne, ça n'existait pas, ou très peu. On coupait ce qui dépassait. Les vignes grimpaient, c'est de la famille des lianes, donc ça pousse très facilement. Ça grimpait le long des arbres. Je parle, on est plutôt au Moyen-Âge, là. Hein. Mmh. Au Moyen-Âge, bon. La taille, elle existe vraiment d'une manière, disons, un petit peu scientifique, que depuis le 19e siècle. Depuis la crise du phylloxéra.
Ah oui.
Hein, c'est la crise du phylloxéra qui a quand même détruit... pratiquement tout le vignoble européen, c'était pas en deux ans, hein, c'était sur 15-20 ans que ça s'est fait. C'était dû à un petit insecte, qui s'appelle le phylloxéra, et qui est venu des États-Unis. Comme les Américains, ils nous ont amené plein de trucs. Hein. Toutes les maladies de la vigne, c'est les Américains. Le phylloxéra, les Américains. La seule maladie qu'il y avait dans les vignes... depuis le Moyen-Âge, c'était la pourriture.
Ouais.
Il n'y avait que ça qui était embêtant. Donc la vigne n'était pas taillée vraiment, c'était un peu cimée, on faisait ça grosso modo. Quoi. La vraie taille de la vigne, c'est très récent, hein, c'est fin 19e.
Fin 19e. Donc on a replanté la vigne après le phylloxéra et on a commencé à la tailler, à la traiter à ce moment-là.
Grâce à quelques personnes qui étaient... un petit peu pointu, hein, comme M. Guyot, qui a inventé sa taille, la taille Guyot, c'était 1870 ou 80, je n'ai pas les dates en tête, mais c'était fin 19e. Hein. M. Roya aussi, qui a créé son mode de taille, c'est deux trucs très intelligents, et que les gens ont utilisé très rapidement. Mais je suis un peu étonné de ce système-là, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de moines, c'est les moines qui ont développé la vigne en France, mais pas qu'en France, et les moines cisterciens en particulier, et ils ont été très doués pour plein de choses, mais la taille, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, donc ils faisaient un peu n'importe quoi. Ils taillaient court, on sait qu'ils taillaient court, mais... sans vraiment penser au flux de sève, parce que quand on met plusieurs bois, il ne faut pas que la sève n'aille que d'un côté, donc il faut que ce soit un petit peu équilibré, au moins sur deux ans, au moins deux ou trois ans, qu'il y ait une espèce d'équilibre, qu'il n'y ait pas que des réseaux de sève d'un côté et pas de l'autre du tout. Enfin, bon, il y a tout un système qui n'a pas été pensé par les moines. Je suis un peu déçu par eux.
Mais donc avant le phylloxéra, il y avait de la taille, mais pas pensé, ils taillaient la vigne.
Comme ça, au pif.
Et tous les ans ?
Oui, tous les ans.
Et donc après le phylloxéra, on s'est mis à tailler de manière plus raisonnée.
Rigoureuse.
Rigoureuse.
Oui, plus rigoureux, et puis on s'est aperçu de choses. Bon, c'est intéressant que vous fassiez cette émission dans le coin, parce qu'il y a quand même, historiquement aussi, l'âne Martin, qui vient de, qui est originaire de Tours. Et c'est lui qui nous a appris la taille. C'était au 4e siècle, fin 4e siècle. C'est une légende. Hein. Il se baladait avec son âne. Il attachait son âne à un piquet. Et puis, il était fatigué, il a fait une grosse sieste. Une sieste de 2-3 heures. Toi. Et il revient. L'âne avait bouffé toutes les vignes qu'il avait, auxquelles il avait pu accéder. Parce qu'il avait quand même une chaîne, et il a bouffé tout autour, toutes les vignes. Bon, il n'était pas content, monsieur Martin. Et bon, ça, c'était au début du printemps. Et il s'est aperçu, après, au moment des vendanges, que ces vignes-là étaient magnifiques. Il y avait des beaux raisins qui étaient gros, pas abîmés, pas en grande quantité. Et il s'est aperçu surtout après que le vin issu de ces raisins était vachement meilleur que d'habitude. Parce que d'habitude, quand c'était pas taillé correctement par un âne, les grappes étaient toutes petites, acides, à peine mûres, enfin vertes, quoi, parce qu'elle avait beaucoup trop. Mmh. Et ça donnait du vin qui était pas bon, quoi. C'était vraiment bon, pas bon. Donc on est dans la région, on est un petit peu à l'origine de la taille de la vigne. Enfin, wow. je serai dans le Midi, les gens du
ils
Midi...
Ils ont peut-être d'autres histoires qu'ils racontent. Ouais.
Vincent, Saint-Vincent, c'est le patron des vignerons. Là, c'est pas dans le Midi, oui. C'est... si mes souvenirs sont bons, ça se passe dans le Jura.
Quelle musique t'évoque le travail de la taille, ou quelle musique conseillerais-tu pour les tailleurs à écouter dans la vigne, par exemple?
Moi, j'aimais bien écouter les oiseaux quand il y en avait suffisamment, mais là maintenant, il en manque quand même beaucoup. On a perdu bientôt la moitié.
T'entends moins les chants?
On entend très peu les oiseaux, enfin de moins en moins en tout cas. Mais bon, ta question est intéressante, je vais quand même y répondre parce que j'ai une petite idée. Donc, moi, j'aime bien Vivaldi, j'aime bien les quatre saisons. Et donc, ça serait bien de ne pas écouter, mais d'avoir en tête l'hiver de Vivaldi. Parmi les quatre saisons, il y a quand même l'hiver. Et ça met l'ambiance. Mm. C'est cette ambiance-là qu'on perçoit. Mm. C'est exactement ça. C'est un mec qui a bien senti les choses.
Jérémy, pour cette découverte du mouvement L'hiver des quatre saisons de Vivaldi à l'accordéon par Richard Galliano. On parlais technique de pêche en Loire, moi je reprendrais bien parce que du coup tu nous as parlé donc de cette technique de filet et ça y est j'ai oublié le nom.
La scène de plage.
Moi je parlais de la nasse parce que j'ai connu ça quand j'étais petite en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Paul? Tu nous disais que tu pêches à la ligne. La pêche à la ligne, c'est par les professionnels, c'est très utilisé.
Alors, par les professionnels, c'est arrivé. On s'y est mis récemment avec Thierry et ses comparses pêcheurs, je pense à Nicolas Bonnet. Oui, parfois les pros s'en doutent un peu, mais je ne saurais pas en dire plus.
En fait, la distinction entre professionnel et amateur, ce n'est pas la performance. Parce que j'en connais un certain nombre qui sont plus performants que moi, amateurs. C'est la capacité à... C'est le droit à commercialiser.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, il est des moments où la canne, c'est l'outil le plus efficace. Mm-hmm. Voilà, en particulier l'automne avec les silures. Les filets, les eaux sont très basses, donc les filets, ma foi, ils se prennent... Ils descendent tout doucement, les eaux sont très claires, le poisson voit le filet, il nous regarde et il fait demi-tour. Mm-hmm. Voilà, donc bon, on utilise d'autres choses. Et effectivement, la ligne, elle a de gros avantages.
Et dans ce cas-là, la ligne du bateau ou du bord de la Loire ou
les deux capitaines ? Nous, on le fait essentiellement à partir du bateau, mais pourquoi pas, enfin...
Du bateau, c'est préférable à bien des égards, oui.
Ouais, c'est-à-dire
On a affaire à des poissons qui sont très grands, très puissants. Évidemment facilement on va à la casse quoi. Donc si on est mobile sur l'eau, on a la chance de pouvoir suivre le poisson parfois sur des distances importantes
et on fait du jet ski.
Ouais, mais ils mettent parfois très longtemps à se fatiguer hein. Ça peut durer une heure et demie, parfois un peu plus Donc c'est bien d'être en bateau, ouais.
Est-ce qu'on peut parler des poissons justement? Est-ce que vous parlez des techniques de pêche qui sont adaptées à chaque poisson que vous pêchez? Ouais. J'imagine, je ne sais pas. J'ai appris plein de choses avant pour préparer l'émission, dont plein de noms de saumons. À part l'anguille, le silure et le saumon et la carpe, les autres, moi, je ne connaissais pas. Bon, le gardon, on a tous entendu parler de ça quand on était petit, mais le rotangle, la brème, le carassin, coyon, ablette, otu. Alors, chevasse, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Chevenne, barbeau. Après, je n'arrive pas à me relire. Donc voilà, l'alose. Alors, l'alose, c'est très connu dans le Bordelais et puis dans le Vaucluse aussi. Parce qu'on
c'est un migrateur.
Spécialité.
On ne va pas la trouver toute l'année sur la Loire.
D'accord. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous pêchez, vous, messieurs?
Alors, je reprends la parole parce que là, je vais jouer le pro. On pêche du silure.
Et le silure.
Non, pas ça. Bon, mais alors voilà.
Bah, parlez-nous du silure, parce que le silure, c'est pas très très connu finalement.
Oui, puis ça n'a pas une super réputation, le silure.
C'est ça. Hein.
Ben, c'est fort dommage, hein, parce que d'abord, c'est un poisson très bon. Ensuite, il y a cette fameuse distinction qu'on fait entre le poisson noble, qui serait carnassier, seigneur, chevalier, etc., et le poisson.
On parlera du brochet.
Banal. Voilà, ouais. Alors moi, je ne vous en parlerai pas beaucoup, ni du cendre, parce qu'on en prend très très peu. Mais je ne vais pas exclusivement vous parler du silure. Non plus. Sachez qu'il est, il est très très abondant. Il représente plus de la moitié de nos prises, quasiment quel que soit le pêcheur professionnel en Loire moyenne.
Il est sûr d'en prendre.
On est sûr d'en prendre, oui. Et puis on le rencontre souvent et on a trouvé, on a développé les manières de l'exploiter de manière à ce que effectivement on puisse vivre de cette pêche. Et j'étais récemment à discuter avec Bernard Charret sur Convergence Bio, c'est-à-dire le grand rendez-vous de la gastronomie bio sur
Tours au mois de septembre.
Il y a une dizaine d'années, on pouvait avec lui mettre un banc de poisson où il y avait une quinzaine d'espèces que vous avez citées en frais et puis quelques produits transformés. Actuellement, l'année dernière, sur le banc de il n'y avait pas de banc d'ailleurs, on faisait des acras à partir des poissons blancs qu'on prend et du fumé de silure. C'était plus cette année-là, les mulets ont été très peu présents. Enfin, en tout cas, ils sont montés et redescendus sans s'arrêter sur l'Indre-et-Loire et on en avait très peu. Donc, il y a quand même une chute de la biodiversité qui est qui est massif, quoi.
Mais qu'est-ce qu'on... Le silure, qu'est-ce qu'on lui reproche? Est-ce que ce sont des poissons qui ont beaucoup d'arêtes? Est-ce que...
Ah non, il n'en a pas.
Il n'en a pas.
Non, c'est un poisson qui a un spectre de nourriture très large et qui s'adapte très bien, qui est, en termes de nourriture, qui est aussi très bien adapté au climat et qui est le top prédateur. Il a donc...
Et c'est lui qui bouffe tout le reste.
Oui, enfin, il a bon appétit, oui. Et il a bon appétit. Il a un cerveau qui doit être gros comme un pois chiche, mais en tout cas, il pense avec tout. Il pense avec ses barbillons, il pense avec la ligne latérale, il pense avec ses yeux et il est capable de faire des synthèses absolument extraordinaires. Donc, mais comme dans tout le règne animal, hein, on parle peu du gardon, mais il doit aussi être assez fabuleux. Voilà, il se trouve que il connaît une expansion assez assez importante, donc et il est capable d'atteindre fréquemment sur. Il représente la moitié de ma production et la moitié de cette production, c'est des spécimens qui font entre 1,80 m et 2 mètres.
D'accord.
Voilà. Alors, et pour sortir ça de l'eau à la canne, c'est... Ça pèse combien, un silure?
Les cannes, c'est un peu comme des trucs à espadon. Hein, sur, et puis sinon, tant qu'il est dans l'eau, il est à l'aise, hein, donc il pèse pas lourd. Après, il y a l'histoire de le faire basculer sur le bateau, mais ça, on prend rapidement le coup.
Vous êtes tout seul?
Non. Souvent, alors, on va prendre... Oui, il arrive d'être tout seul. Alors, quand on revient aux techniques, il y a le filet dérivant. Donc là, on est au minimum à deux, c'est-à-dire un au moteur et l'autre au filet pour le déployer et le retirer. Et là, effectivement, lorsqu'on va prendre essentiellement les mulets et les silures avec ces filets-là, on est donc en action, on est mobile sur ces moments de pêche. Et puis, il y a les filets dormants, c'est-à-dire qu'on pose le soir et qu'on récupère le lendemain. Ça, souvent, c'est des pêches qu'on fait seul. Effectivement, on peut prendre des silures. Et là, ma foi, on déploie beaucoup d'astuces pour le ramener.
Ouais. Ouais,
et alors, la moitié des prises des silures et sinon des mulets?
Alors, les mulets pour un quart.
Ouais.
Suivant les années, parce que cette année c'était quasiment rien. Et puis sinon du poisson blanc, donc ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les carpes, mais également les barbeaux, les chevennes, les gardons, les otus, c'est rare, les brèmes également.
Les tanches.
Alors très peu, parce que ça c'est plus Paul qui pourrait en causer, parce que la tanche, elle a...
La tanche un peu moins, parce qu'elle a besoin de milieux moins mobiles, moins peignés par le courant.
D'accord.
Ce qu'on appelle des boires, où on a une dépose de matière organique, en fait, qui fait qu'on a des zones très riches, enherbées, où le biotope n'est pas du tout celui qui est peigné par le courant, sableux, un peu vide de nutriments, en fait. Donc ces zones sont effectivement plus rares, et donc le poisson l'est tout autant, oui.
Et alors moi, ce qui m'épate, c'est que j'entends tous ces noms-là, mais en fait, on les voit jamais, ni sur les étals des poissonniers, ni sur les cartes des restaurants. Donc, on en fait quoi de ces poissons après ?
Alors, on se les partage entre amis.
D'accord, hein, très bien.
Voilà. Non, on les distribue, nous concernant, on les distribue sous trois formes, c'est-à-dire au restaurant. Donc là, sur Tours, il y a la bistronomie qui est active et qui met en valeur donc les ressources du pays, donc enfin du pays du terroir. Donc il y a l'histoire du silure et il y a la carpe. La carpe est un poisson qui ressuscite de l'intérêt parce que d'abord la carpe de Loire est une carpe en eau vive, elle n'a rien à voir avec la carpe d'étang. Elle est très souvent avec une chair rouge qui qui permet beaucoup de choses, y compris de la manger crue. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui excite les cuisiniers.
Les cuisiniers qui sont adeptes de un petit peu du renouveau, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça. Et puis qui ont envie de se distinguer sur leur capacité à travailler du produit local.
Ça va être les mêmes qui vont cuisiner les vieux légumes, par exemple. On est un peu dans la même dynamique.
Oui. Par contre, ça va pas être les mêmes que ceux qui vous font du cendre qui vient d'Estonie ou de Pologne.
Oui, non, mais voilà, c'est ça.
Qui est tout à fait respectable, mais qui est en tout cas du cendre en restaurant. Il y a quand même peu de chances que ce soit un cendre de Loire.
Ouais. Ça me fait penser cendre d'Estonie. Je me dis que ça pourrait être l'heure d'un coup de gueule, hein, éventuellement.
C'est mon tour.
Ouais. Eh bien, oui, apparemment, là, Jérémy me fait des grands signes. Apparemment, il y a un morceau de musique raté.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
C'est à moi. Bonsoir. Rebonsoir. Mais non, je n'ai même pas à vous dire bonsoir parce que ça fait déjà une heure que je cause pas parce que c'est Alice qui a pris toute la parole, une fois n'est pas coutume. Alice qui nous rappelait tout à l'heure qu'au mois de février, il y a plein d'échéances qui nous attendent. La Saint-Valentin, on a tous hâte de la Saint-Valentin dans 2 jours. Et puis après, il y a Mardi Gras. Mais moi, je vous rappelle quand même que la Chandeleur, c'était il y a une dizaine de jours et qu'elle est passée. C'était le 2 février, comme tous les ans, soit 40 jours après Noël. Hein, ceci dit, petit rappel pour les plus...
Et 50 jours avant Pâques, et 3 mois avant l'Ascension.
Merci de ce petit rappel du catéchisme, pour faire plaisir aux plus traditionnalistes d'entre nous, n'est-ce pas ? Alors, comme tous les ans, il s'est vendu en France énormément de crêpes industrielles. Sucré ou salé, nature, toute préparée, il n'y a plus qu'à garnir, c'est magique. Vous devinez combien ?
Devinez combien ? De quoi le prix ?
À 1000 tonnes près, combien s'est vendu de crêpes industrielles en France l'année dernière ?
À Milton près, je sais pas. À Milton près, ah oui, ouais, quand même.
Tonnes, donc, ça fait beaucoup, hein. Combien 15 000. Eh ben, on est tout près, ouais. 13 000 tonnes. 13 000 tonnes.
De crêpes caoutchouteuses.
De crêpes, et ouais, vous avez bien entendu ça. Ouais. Pour un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros, hein, quand même. Ça, c'est un bon business. Les grosses enseignes et les fabricants auraient vraiment tort de se priver d'un tel business. Hein. Alors, une crêpe industrielle, c'est quoi, les amis? C'est une crêpe, enfin plutôt des crêpes, qu'on retrouve conditionnées dans un paquet généralement en plastique. On peut réchauffer ou pas, mais le gros avantage, c'est ben, bien sûr que c'est tout prêt. Il n'y a plus qu'à étaler son Nutella. Ou alors ils mettent son jambon, son fromage et enfourner au micro-ondes, hein, bien sûr. D'ailleurs, voici un autre chiffre pour vous faire rêver. Tiens-toi mieux que ça, Marie, s'il te plaît. Les crêpes salées toutes garnies, ils s'en vont à peu près 6 000 tonnes par an en France pour plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Le truc tourné, là, qui est tout en longueur avec une espèce de sauce infâme à l'intérieur.
Exactement, c'est d'accord. Bien ça, qu'on fait réchauffer à la poêle ou encore au micro-ondes ou au four, enfin peu importe, c'est quand même 6 000 tonnes par an et je le rappelle, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors moi, quand j'apprends ça, je me dis franchement que j'ai loupé une carrière de crêpier.
Ah bah oui, c'est clair.
Voilà, je sais pas ce que je fous là parce que franchement, c'est très lucratif les crêpes, surtout.
Plus que la bière, tiens.
Et plus que, bah, beaucoup plus que la bière, surtout les salées. Alors la recette des crêpes salées, c'est encore moins cher. En France, on appelle ça des galettes. Dans une certaine partie de la Bretagne, on appelle ça des galettes aussi. On appelle ça des crêpes noires chez moi quand j'étais petit. Hein. Alors la recette est encore moins chère parce que c'est de la farine de sarrasin, des œufs, mais pas beaucoup, un peu de sel et surtout de l'eau. Beaucoup d'eau. Il n'y a pas de lait dans les crêpes.
Parfois, il y a d'œufs, hein, t'es pas obligé de mettre...
Et en plus, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais arrêter de blâmer les fabricants, mais plutôt m'interroger sur ce qui pousse les consommateurs à acheter des produits tout faits, plutôt que de les faire eux-mêmes. Car une époque où, rappelons-le, le rapport des Français sur la gastronomie, à part les sorties au restaurant, ça ressemble plutôt à ça.
Mercredi.
Pour la première fois dans Top Chef, Frédéric Anton, 3 étoiles et meilleur ouvrier de France, défiera les candidats dans son prestigieux restaurant parisien.
C'est un rêve, on est chez Frédéric Anton dans ce lieu sublimissime. C'est incroyable.
Alors vous avez reconnu Top Chef, la première, la plus grande émission, on va dire culinaire, entre parenthèses quand même en France. Moi c'est assez sympa de le regarder. Alors, mercredi dernier, la première de la saison de Top Chef a rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs derrière les écrans. On se demande pourquoi celle-ci, d'ailleurs, ce genre d'émission, ne provoque vraiment pas plus d'enthousiasme à cuisiner soi-même. Peut-être que si elle poussait les candidats à cuisiner des choses simples et les obligeait à en faire la démonstration, on vendrait un peu moins de crêpes toutes faites bourrées de conservateurs. Je rêve d'ailleurs d'une émission de télé où on cuisine de manière simple des plats traditionnels et qui donnent vraiment envie de les faire nous-mêmes à la maison. D'en prendre le temps aussi, parce que tout est basé sur le gain de temps que nous procureraient tous ces produits tout faits. Il en va des crêpes comme de la blanquette de veau ou des lasagnes. Tout le monde est capable de faire des crêpes à la maison, pour pas cher et pour meilleur. Encore faut-il un bon vecteur pour en persuader les gens. Parce que moi, je trouve que ces émissions sont un peu trop techniques et quand elles ne sont pas, elles sont généralement mal montées. On passe de plus de temps à voir des aliments en gros plan, se faire malaxer par des mains floutées, il y a des contre-jours artistiques, des contre-champs, des couteaux qui coupent, qui hachent très vite des choses qu'on voit pas. Bref, c'est des belles photos de tendance qui bougent, mode oblige, mais on n'apprend pas vraiment à cuisiner. Et même si elles restent tout de même agréables à regarder ces émissions, on reste la plupart du temps dans une compétition où la notion de plaisir n'est réservée qu'aux juges qui ont pour tâche de goûter les réalisations qu'on n'a pas toujours comprises, nous, comme téléspectateurs. On reste donc un petit peu sur notre faim, ce qui est un comble hein, quand on parle de bouffe, sans parler du fait qu'on embellit fortement l'image du métier de cuisinier pour le porter directement au rang de chef, alors que dans la réalité, ça prend bien 10 ans. Des efforts considérables, de la souffrance, de la fatigue et un engagement hors norme pour en arriver là. Enfin bref, j'ai pas regardé toutes ces émissions non plus. Mais j'ai encore jamais vu quelqu'un me faire une pâte à crêpes simple qui donne envie d'en faire chez soi. Ou alors, plutôt que de continuer à râler, je vais donc vous donner la recette. Hein, c'est simple, la pâte à crêpes. Alice, je suis sûr que tu as fait ça samedi dernier. Vous prenez 200...
Dimanche,
avec un jour de retard, mais c'est pas grave.
Je vais travailler samedi.
Alors, 250 g de farine. Vous ajoutez à peu près 60 g de sucre, une pincée de sel. Vous mélangez tout ça. Et vous faites un puits, vous cassez 6 œufs dedans, vous mélangez.
C'est énorme.
Ah, il faut des œufs, ouais. Vous mélangez tout ça, vous faites une espèce de bouillie, puis ensuite vous versez 75 centilitres de lait, grosso modo, jusqu'à une bonne consistance, et puis 5 centilitres de rhum, absolument obligatoire de mettre du rhum.
Non.
Ouais, et puis moi j'ai
tu
même vu une émission.
Avec le phare breton, hein.
Non, pas du tout. Non, il faut mettre du rhum. Et puis moi j'ai même vu une émission de télévision. Si vous regardez sur YouTube, il y a Raymond Oliver,
ouais.
Hein, qui met tout un tas d'alcool dedans. Il y a à peine du lait dedans. C'est absolument délirant. Donc vous mettez au frigo pendant une heure, vous rallongez avec du lait si nécessaire, parce que généralement la pâte après avoir reposé peut épaissir, et vous y jetez un beurre noisette avant de la mettre dans votre poêle. Et puis vous faites vos...
Fondu ou pas? Parce qu'on peut le fondre avant. Là, toi, tu le fonds ou pas avant?
Un beurre noisette est toujours fondu, ma chère.
Ah, pardon.
Donc, je vais répéter. Vous faites fondre une grosse... J'avais écrit pour toi. Vous ferez fondre une grosse noisette de beurre dans votre poêle jusqu'à ce qu'elle obtienne une belle couleur noisette. Donc, on peut considérer qu'il est cuit. Hein, et vous le verserez dans votre boîte en fouettant.
Ah,
donnez la recette. Voilà, bah, bref, ça, je me relis. Alors, ensuite, vous faites vos crêpes. Tout le monde sait faire des crêpes. Vous mettez juste un tout petit peu de beurre dans une poêle bien chaude, une poêle à crêpes, hein, ça coûte pas très très cher à Leclerc, c'est juste à côté des deux rayons après les crêpes industrielles. Et puis voilà, ça c'est vrai, vous coûteront beaucoup moins cher que celle en paquet, c'est garanti, vous aurez la satisfaction du fait maison. Et pour ceux qui me diront qu'ils n'ont vraiment pas le temps, je tiens à dire que cette année la Chandeleur c'était un samedi et que l'année prochaine ce sera un dimanche, qu'ils ont un an pour penser à faire la pâte la veille et qu'ils auront donc tout leur temps.
Ah, monsieur, dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez?
Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet.
C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux?
Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférerais un demi-doux.
Et sur ces recettes de crêpes, on va parler recettes de poissons, parce que justement, donc on se demandait un petit peu ce que deviennent ces silures et tous ces mulets, tous ces poissons pêchés. Donc, certains restaurateurs les prennent en version fraîche, c'est ça? Comment il est cuisiné? Est-ce qu'il les transforme ou est-ce qu'il les serve? Est-ce qu'on peut, je sais pas, manger un filet de silure?
Oui, alors on peut manger les filets de silure, on peut manger du mulet. Alors voilà, la recherche, ça va être plutôt dans le dépouillement en ce moment, plutôt que sur des sauces et des recettes traditionnelles. Voilà. Et en fait, ça ramène à des goûts qui vont un peu bousculer les gens qui vont venir goûter. Voilà, le silure, c'est marrant avec le silure, parce que ce soit les Africains ou l'Europe de l'Est, lorsque le silure n'est pas la mode, on dit, bah, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Voilà. Et maintenant, ces chefs commencent à revisiter des recettes qui viennent d'horizons divers, et c'est ma foi très sympathique. Alors, surtout concernant le silure, enfin, il a une texture qui permet un peu tous les modes de cuisson. Il n'a pas d'arête, c'est extraordinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer en frais.
Alors comment on fait? On peut, c'est ça? Est-ce que le particulier, parce que certes, parce que vous n'êtes pas nombreux, vous avez vos circuits,
oui.
Et les particuliers, ils peuvent acheter du poisson frais de Loire?
Oui, alors, donc, je sais que Sylvain, ici, doit en faire. Alors, mais sur le site,
donc,
vous allez...
sur Muide.
Voilà, c'est sur Muide. Il y a des marchés qui fait, voilà. Nous, enfin, pour ma part, pour se procurer du frais, j'ai... voilà, les gens me contactent et je leur mets à disposition à partir de l'atelier où je travaille.
D'accord.
Donc c'est sur Mont-Louis, Biolinette, à côté de la Maison de la Loire. Voilà. Et,
on n'est pas comme en bord de mer où le pêcheur revient et amène son poisson sur le marché. Ça ne fonctionne pas comme ça?
Non, parce que la criée, c'est le cœur du marché. En fait, il n'y a pas de marché.
Il n'y a pas de marché aux poissons.
Mais
même venir sur un marché du matin, enfin, ou du soir, ou peu importe, ça se fait pas, en fait.
Alors, ça peut se faire. On va essayer. Parce que là, je vais m'installer à côté de Jean-François Souchard et de la base de Canoë sur Roche-Corbon. Mm-hmm. Et ma foi, lorsque les gens... voilà, ça ne sera pas heure fixe, ça sera en fonction du soleil, un petit peu avant que le soleil se couche, ou carrément après. Mais criée, ça sera plutôt avant qu'il se couche. Voilà, ça sera possible de s'en procurer.
D'accord. Et sinon, le poisson, il est beaucoup transformé. Enfin, notamment, alors, les poissons de la bourriche aux appétits, etc., on les trouve beaucoup en terrine. Et toi, t'as créé une recette un petit peu particulière pour valoriser le poisson?
Alors, plusieurs. Et considérant que ce qui m'a apporté, c'était la notion de temps, d'apporter le moins d'intrants possible et de s'accorder le temps pour que ce soit des phénomènes plus naturels qui jouent sur la transformation du poisson. Voilà. Et donc le premier des trucs, c'était le fumage. Le fumage, c'est la méthode traditionnelle pour que, bah, ma foi, le poisson, entre autres, traverse les saisons et qu'on puisse le conserver sans risque. Donc c'est d'abord du salage, c'est de la découpe, du temps de séchage, du salage, de l'essuyage, de nouveau un temps de séchage, ensuite le fumage et de nouveau un temps de séchage avant qu'il soit distribué. Alors après, bah, je me suis un petit peu adapté, c'est-à-dire que je salais un peu moins, ce qui fait qu'il perd un peu moins d'eau, je fume un peu moins, ce qui fait qu'il est un peu plus tendre, et entre ma conservation type moyenâgeuse qui faisait de la semelle, qui pouvait traverser 4-5 mois sans passer par une période de froid, et ce que je fais maintenant, d'abord mon poisson est plus lourd parce qu'il est moins sec, et j'ai acquis de l'expérience. Voilà, j'ai acquis de l'expérience.
Il y a d'ailleurs un peu de silure fumée qui passe là dans le studio et
absolument
et
délicieux.
Qui ravit les papilles.
C'est tendre, hein, c'est très très tendre.
Voilà.
C'est très goûteux.
Et l'autre manière de faire, ça a été ces fameux poissons blancs qui sont abondants qui sont pleins d'arêtes. Ils sont extraordinaires et ils sont également pleins d'arêtes. Et en fait, l'une des manières de les valoriser, c'est d'en faire des acras. C'est-à-dire qu'avec les acras, on lève les filets, on regarde autant n'importe le vent, après on change, mais quand même autant n'importe le vent, quand on a fait une bonne pêche, c'est vraiment ce qu'il faut. Et on va retirer les arêtes. Et à partir de là, bah après, on fait appel à d'autres horizons, à d'autres idées. Donc là, c'est plus Martinique ou Caraïbes. Et donc, c'est deux volumes de poisson blanc, un volume de farine bio. De la bière, alors du harissa, parce que j'aime bien la Méditerranée aussi, les œufs montés en neige, les blancs, les jaunes incorporés, de l'ail, de l'oignon, du persil, un peu de bicarbonate, un peu de levure, laisser aussi le temps à la pâte de monter, et on les sert dans les festivals.
Oh, c'est génial, voilà. Ça. Mais ça pourrait être commercialisé ou c'est vraiment...
Alors, c'est commercialisé dans les AMAP. Ouais.
D'accord.
Voilà, ce qu'on essaye que ce soit les circuits les plus...
Mais c'est génial parce qu'on adapte une recette qu'on croit limitée, en effet aux Antilles, à un produit local. Donc, c'est une autre valorisation de la ressource locale.
Ouais, et puis en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va croiser beaucoup de choses sur le fleuve. On a l'impression qu'on y est tout seul. Et puis, voilà, du côté de Mône, il y a quelqu'un qui régulièrement descend, je crois, c'est de Blois jusqu'à Amboise, en canoë une fois par semaine à 6h du matin. Voilà. Et bon, on le voit jamais. Sauf que, bah, parfois, on pêche, on a l'impression d'être tout seul dans la brume, et on voit un canoë qui passe. Voilà. Et on croise aussi beaucoup de photographes. Enfin, on croise du monde. On croise également des gens qui ont des recettes. On croise des histoires. On croise des. Voilà. Paul, entre deux chantiers, assez régulièrement. Et voilà. Bah, tout ça, ça donne. Ça fait que le fleuve, il est ouvert. Il est ouvert à tout un tas d'influences, de trucs. Mais en même temps, ça préserve la tradition. C'est-à-dire que dans la tradition, on a le souvenir de ce qui compte et ce qui est valable. C'est-à-dire, on n'est pas muré dans le conservatisme, ouais. On est dans la compréhension de ce qui fait sens. Et donc le sel et le temps et le fumage, c'est pas idiot. Voilà, donc on le fait plus avec le silure qui, lui, n'est pas d'aujourd'hui sur la Loire, mais voilà, on réfléchit à ce qu'on fait.
Et juste une petite dernière question, parce qu'on va passer à notre petite chronique, se souvenir des bonnes choses. Le garum, qu'est-ce que c'est ?
Ah, le garum.
Vite fait.
Le garum, c'est la réhabilitation.
Une minute trente.
Voilà, bon, ça fait 1500 ans qu'il attend, donc... le garum, c'est une sauce lactofermentée de poisson. C'est-à-dire, c'est voisin, cousin du gnocchmam. Et en fait, ça a des tas de vertus. Et même c'est... Rabelais en recherchait la recette.
Tu l'as transformé, enfin, tu as recréé cette sauce, ouais. À partir de poissons qui n'étaient pas valorisables, hein, c'est ça
C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, sur le poisson, il y a un tiers, en gros, c'est le filet qui était valorisable. Ce qui est dommage, et à d'autres époques, en d'autres lieux, on en valorise davantage. Voilà, on a retrouvé ça et on va le faire découvrir à partir du printemps.
Merci beaucoup. Je crois bien que c'est l'heure d'écouter les souvenirs de gastronomie en culotte courte d'une certaine Fanny Goumard.
Exactement, Fanny Goumard qui a un tout petit restaurant absolument charmant à Blois. Je me souviens jamais le nom de cette rue, mais enfin bon, c'est facile. Elle est référencée
en haut des marches de Denis Papin.
Ouais, voilà.
Et le nom du restaurant, c'est quoi ?
Et c'est Miss Goumard, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc on va écouter les souvenirs de Fanny. Se souvenir des bonnes choses.
Alors moi, je suis d'une famille où on cuisine pas beaucoup. On n'a pas un passé de cuisinier ou pâtissier. Ma grand-mère paternelle devait pas mal cuisiner, mais comme c'était déjà une vieille grand-mère quand je suis née, j'ai très peu de souvenirs d'enfance. Et à partir de l'adolescence où j'ai mes souvenirs, on faisait beaucoup appel à des entreprises de surgelés. Ou alors c'était le rôti du boucher du coin, les légumes du marché quand même, on avait des bons produits. Mais c'était des choses très simples, pas des plats en sauce, pas les plats traditionnels français. Donc j'ai pas une culture gastronomique française, voilà. Et j'avais en plus une maman, vraiment maman des années 80, qui travaillait avec deux enfants. Et du coup, j'ai été élevée à la purée mousseline et au jambon sous vide. Je caricature un peu, mais voilà. Et le peu qu'elle cuisinait, c'était des soupes ou des gratins, mais vraiment avec des légumes à l'eau, limite, comme aurait dit mon père, diététique, pour pas dire... voilà, pas bon. Et puis, comme j'avais le projet d'ouvrir un salon de thé, vers la vingtaine, je me suis mise à cuisiner parce que je m'étais dit que la pâtisserie, j'allais pouvoir me débrouiller. Mais en salé, j'ai commencé à cuisiner un peu pour mes amis vers 20-25 ans. Et puis finalement, moi, j'étais partie sur des quiches, des cakes, un salon de thé avec du salé assez simple. Mais en fait, je me suis dit au bout de quelques temps, faut faire mieux que ça, faut proposer une offre un peu plus, plus originale. Et là, je me suis mise vraiment à travailler avec des épices, des herbes, des choses que ma mère faisait pas du tout. Et en copiant un peu ses recettes, mais avec des épices et des herbes, je me suis dit, mais en fait, il y a de quoi faire plein de choses, plein d'associations. Donc ça a été un peu une révélation. Et puis depuis que j'ai ouvert, c'est un peu au feeling. Et le fait de pas être ancré dans une famille où on cuisine beaucoup, où on est peut-être focalisé sur certains plats ou une certaine façon de cuisiner, moi, ça me laisse vraiment libre cours à l'imagination. Je me mets pas de barrière, quoi. Je fais des associations un peu improbables parfois. Et puis du coup, je cuisine beaucoup végétarien parce que je pense que mes grands-parents m'ont vraiment inculqué le sens des bons légumes et des bonnes choses. On mangeait les légumes du potager, ou les légumes du marché. Mais je pense que la base, elle est là finalement, plus que des bons petits plats. C'était plutôt des produits simples et sains. Et maintenant, c'est là-dessus que je me repose pour cuisiner ici. Donc voilà. Et j'ai un petit peu voyagé. Du coup, j'aime bien expérimenter les nourritures exotiques. Alors moi, quand j'étais petite, on allait pas mal en Angleterre parce que ma mère était prof d'anglais. Donc on allait en Angleterre et le grand plaisir de mon père, qui était prof de commerce et qui a travaillé dans le commerce, qui était représentant. Enfin bon, voilà, il aimait bien voir la façon dont étaient présentés les magasins, les supermarchés. Et on achetait des tas de trucs en Angleterre. Alors les trucs vraiment anglais, quoi. La gelée, les boissons gazeuses spéciales, les moutardes, les sauces, enfin bon, voilà. Et du coup, moi, je suis très ouverte à des goûts très, très différents. Et après, j'ai voyagé par moi-même, où là, j'ai découvert plein d'autres goûts, plein d'autres choses. C'était la plus fin, on va dire, que ce que j'avais eu l'occasion de manger en Angleterre. Et un voyage qui m'a marqué, c'est celui avec mon père en Chine, parce qu'il a, comme il était enseignant, il avait 3 semaines de cours en Chine par an. Et la dernière fois qu'il y est allé, j'en ai profité, je l'ai rejoint là-bas. Et là, on a vraiment fait les petits bouis-bouis du fin fond de Pékin et même dans les campagnes, dans le Yunnan. On est allé passer quelques jours dans le Yunnan. Et là, c'était dingue, quoi. On s'est fait... On mangeait sur les remorques des vélos. Il y a des gars qui présentent leur petite bouchée sur la remorque du vélo. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de faire ça parce qu'il y a la police qui tourne. Nous, on était en train de manger et ils sont partis en quatrième vitesse parce que la police arrivait. bon voilà, on n'a pas été malade, tout s'est bien passé. On a même loué des vélos pour aller se promener dans la montagne. Et on est tombé dans un village complètement paumé où une mamie, bon, elle savait qu'il y avait des touristes qui venaient, donc elle devait le faire assez souvent. Elle nous a emmenés chez elle et elle nous a fait manger des, voilà, une petite soupe et du riz maison. Ça, c'était extraordinaire. C'était vraiment. Ouais. Et donc, moi, j'aime bien travailler avec des produits exotiques et essayer de refaire des choses bon, qui puissent plaire à mes clients. Donc, c'est un peu francisé quand même.
De bouche à oreille.
L'émission qui fait manger des épinards.
On arrive en fin d'émission, mais surgit une nouvelle que tout le monde découvre autour de la table. Quoi ? Il y aurait du saumon en Loire. Ah bah ça laisse tout le monde sans voix.
il y a encore du saumon en Loire, ouais, encore un petit peu.
Alors, une fois par an, voilà, il m'arrive qu'il s'égare dans le filet, je l'embrasse et je le remets à l'eau. Il y a un moratoire, enfin il y a une interdiction et il va certainement falloir la maintenir longtemps pour que le saumon puisse avoir des chances décentes de survivre. Non, c'est vraiment voilà.
Paul, c'est un poisson historique de la Loire, j'arrive pas à trouver, endémique de la Loire, ou c'est...
C'est un saumon qui, oui, de par nature, migre tous les ans dans la Loire. Il remonte la Loire pour se reproduire dans le Haut-Allier. Donc la Loire, l'Allier, le Haut-Allier. Et c'est un poisson qui a toujours existé. Il a besoin de ça pour se reproduire.
Mm-hmm.
Ça fait partie de son mode de vie. Et il n'a pas disparu, il est encore présent. On en compte encore un certain nombre tous les ans... particulièrement sur un barrage qui s'appelle Golfèche, où il y a une caméra de comptage. Le chiffre de l'année, je ne l'ai pas, mais c'est effectivement très bas. Mais il y en a encore, on en croise parfois sur la Loire.
Mais c'est le même poisson que celui qu'on va trouver, c'est le même saumon, je veux dire.
C'est un saumon atlantique, mais tout ce qui est plus sauvage et qui aujourd'hui bénéficie d'une haute protection de la part de l'Europe, haute protection européenne.
D'accord.
Donc c'est un poisson qui est très surveillé, il y a... Il y a tout un système qui surveille ce poisson et qui essaie de l'aider.
Pour qu'il puisse en fait redescendre...
Pour qu'il puisse remonter la Loire, pour aller pondre.
Parce qu'on il remonte, il pond.
Il monte, il pond et il meurt à 99%.
Ah, et alors les œufs, eux, après, redescendent.
Les petits saumons font leur dévalaison par la suite, mais le gros problème du saumon aujourd'hui, c'est un des gros dossiers en matière de gestion de l'eau, hein, la loi sur l'eau, ce sont les ouvrages. Voilà, comment aider le poisson à moins se fatiguer, parce que c'est un voyage qui est épuisant pour lui. Et quand il arrive au pied d'une centrale nucléaire ou d'un X barrage, chaque fois c'est la difficulté de trouver le passage, la veine d'eau, la franchir, et puis encore un autre barrage. S'il adosse la prédation du silure qui prend les barrages pour des distributeurs de croquettes, hein, comme le ferait un chat, ils sont pas bêtes, ils attendent, ils savent que le poisson va passer là et ils se servent. Et en plus, ils ont une appétence particulière pour les poissons marins, chargés d'isotopes marins. Bon, bref, on n'aura pas le temps d'en parler, mais ils ont une préférence pour cette chair. Donc oui, le saumon a une vie encore bien compliquée, mais on commence à l'aider un peu, pour de vrai. Ouais.
D'accord. Ouais. Ok. Donc...
Il doit exister dans d'autres fleuves et d'autres rivières de France, de toute façon, le saumon.
Oui, il remonte d'autres grands fleuves français. Ouais. Ouais,
d'accord. Ouais, et le moratoire, c'est sur tout le territoire européen.
Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que j'ai un ami pêcheur qui doit nous écouter, Antoine Proust, qui est le scientifique
sur la Dour. Sur la Dour, il est encore possible.
Il est encore pêcheur sur la Dour. Oui. Ouais.
D'accord. Okay.
Mais de façon générale, il est très surveillé, et en tout cas sur la Loire, il est complètement interdit à la pêche.
D'accord. Ouais.
Donc les pêcheurs de Loire qui pêchent un saumon, il faut surtout qu'ils le remettent ensuite.
Alors normalement le saumon, l'époque à laquelle il remonte la Loire, fait que la pêche au leurre étant normalement fermée au moment de sa montaison, il n'est pas complètement normal de prétendre en avoir pris un par accident. Ça correspond, ça serait curieux. C'est curieux, il faudrait vraiment une année très particulière en termes de
météo. Il remonte à quelle époque ?
Au tout printemps, sur les grosses eaux printanières, hein, je crois qu'il commence à remonter dès mars. Quoi.
Ouais, d'ici quelques semaines, quoi, 15 jours, 3 semaines.
Il démarre tôt, et puis suivront les aloses. Le saumon a besoin d'une température d'eau pour pouvoir fonctionner, pour sa physiologie, pour pouvoir monter. Et au-delà d'une certaine température, il meurt. Donc il a une fenêtre très très courte, quoi. Et là aussi, les barrages allongeant le temps
le
de
parcours.
Le parcours, le piège aussi sur cet aspect-là, quoi, sur la température de l'eau.
Très bien, merci. à tous les deux. On aurait encore plein de questions à vous poser. Moi, Thierry, pour trouver tes poissons, pour trouver du garum, pour acheter de la silure, du silure fumé, on fait comment ? T'as un site internet, des coordonnées
Oui, il y a un site garum de Tours.
.com.fr.net.
Ouais, c'est ça. C'est WordPress quelconque. Voilà.
On mettra les coordonnées
merci.
Sur la site, sur la page de bouche à oreille. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée en vous précisant que la chronique de Marie est en deux étapes et que donc vous aurez toutes les techniques de taille de la vigne. Dans notre prochaine émission au mois de mars, on se retrouve donc le 11 mars pour un nouvel épisode de Bouche à Oreille. Et puis d'ici là, bon appétit et profitez.
Merci Alice.
Merci Alice, bonsoir.
Merci.